Bienvenue sur les podcasts de Blast, un média indépendant créé pour redonner du souffle à l'information. Blast vous propose un autre regard sur l'actualité, à travers des reportages, des décryptages, des enquêtes et des entretiens que nous avons décidé de convertir ici en podcast. Notre ambition, devenir votre média de référence et ainsi peser dans la bataille de l'information qui s'annonce et qui sera décisive. Les podcasts de Blast. Zoom. Arrière. Avec Denis Robert.
Une presqu'île de cendres, telle une coulée de lave sur l'eau turquoise. Contraste saisissant des terres grecques, ravagées par le pire incendie dans le pays cette année.
L'Espagne n'en finit plus de subir les assauts de la météo 15 jours après les inondations catastrophiques autour de Valence.
À New Delhi, difficile de voir au-delà de quelques mètres. Même la célèbre India Gate est à peine visible derrière l'épais brouillard.
Et nous n'arrivons pas à nous donner un objet structurant. Nous sommes complètement éclatés. Et tout ce que... lorsqu'on est dans cette situation-là, forcément, on angoisse. Beaucoup plus que l'anxiété, l'angoisse est ici le maître mot.
Cette COP, elle est appelée la COP Finance. Pourquoi ? Parce que la question fondamentale cette année est celle du financement pour l'adaptation au changement climatique.
Et donc, effectivement, le développement durable a été une sorte d'opération sémantique, comme le terme gouvernance et comme d'autres, pour s'assurer qu'on utilise des mots mous. J'appelle une anesthésie de l'esprit.
Ce qui se passe aujourd'hui, cette convergence des luttes, pour l'eau, c'est la même que pour les retraites, c'est la même violence qu'on nous met.
L'événement politique s'impose. C'est pas une décision humaine, c'est pas une élaboration de scientifiques, c'est pas une délibération parlementaire qui provoque un changement. C'est la force même des choses qui fait que tout d'un coup, il faut vivre à une échelle régionale.
Cher Alain Deneau, je suis content de te recevoir à Blast. Ça, on s'est vu il y a 4 ou 5 ans pour le film que je faisais avec Yannick, La Très Grande Évasion. Au départ, tu étais parti pour écrire un scénario pour un documentaire autour de l'écologie et de l'effondrement qu'on est en train de vivre et de la question de qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça. Et c'est devenu un livre vraiment passionnant que je viens de finir. Et ça s'appelle « Faire que », le contraire de « Que faire ». Et alors, la première originalité, donc évidemment, tu essaies de répondre à la question qu'on nous pose tous, même ici à Blast ou quand on fait des réunions publiques et tout, mais qu'est-ce qu'on peut faire face, alors soit face à, on va dire, à ces sociétés libérales qui nous mangent le cerveau et le portefeuille, face à un monde qui est en train de s'effondrer avec le réchauffement climatique, l'écologie, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et toi, tu obsédé par cette question, tu me dis si les mots sont trop forts, mais obsédé par cette question, tu te dis, je vais faire un constat, un état des lieux qui est d'ailleurs assez angoissant. On va y revenir. Et puis ensuite, plutôt que de répondre à la question que faire, t'y réponds. Mais d'abord, tu inventories tout un tas de gens qui se laissent poser avant toi, dont Lénine. D'ailleurs, ça m'a beaucoup intéressé de relire ce que disait Lénine sur cette question, indépendamment de toute idéologie. Quoi, la liste de questions qu'il pose après que faire, c'est absolument passionnant. Et puis après, tu dis faire que quoi. Tu inverses le concept et donc c'est un livre vraiment qui fait réfléchir, qui nous met face à nos questions et auxquelles on doit nous-mêmes apporter à titre individuel ou à titre de collectif des réponses. Donc c'est édité chez Lux, un éditeur que ça fait deux fois que je reçois des auteurs de chez Lux, qui est un éditeur basé à Montréal, j'imagine, oui, c'est ça.
Avec un ancrage français important.
Oui, avec un ancrage français. J'ai reçu Enzo Traverso la dernière fois, qui est chez Lux aussi. Donc là, je te reçois toi et je suis vraiment content de parler de ce livre qui fait 200 pages. Il se lit assez facilement parce qu'il est bien découpé. Il y a trois parties. Une partie qui s'appelle l'angoisse, qui est une sorte de constat. Et puis ensuite, il y a la question du faire que ou du que faire. Puis, une dernière partie plus courte que tu appelles biorégion, qui est un peu les solutions, oui, parce qu'il y a aussi des propositions qui sont faites dans le livre, et c'est une série de petits spots, c'est des chapitres assez courts qui demandent parfois beaucoup de réflexion, des retours en arrière et tout, mais qui au final on en ressort en se disant ah ouais, à la fois on est déconstruit et en même temps on essaie de se reconstruire. Tu amènes un concept qui est le concept d'inouï, parce que le livre s'appelle Faire que. L'engagement politique a l'air de l'inouï. Et tu dis, enfin, l'inouï, on ne peut le comparer à rien, quoi. Mais face à l'inouï, donc est-ce que tu peux définir ce que tu appelles inouï? Et est-ce que ce livre, justement, est une réponse à cet inouï? Et quelle est-elle? Est-ce que tu peux résumer ça?
Il est vrai que, en fait, tu es avec Yannick Hargrat un peu à l'origine de ce projet, peut-être sans le savoir, puisque, effectivement, j'ai rencontré Yannick Hargrat, le réalisateur de La Très Grande Évasion, avec qui tu as fait, bon, le film, donc tu es co-auteur, sur la question des paradis fiscaux. Après, la production du film, on s'est revus et nous avons établi un constat, à savoir qu'aujourd'hui, lorsque nous parlions des paradis fiscaux, lui, en accompagnant son film, moi, en causant de mes essais que j'ai fait sur cette question-là pendant longtemps, nous confrontions à une sorte de désarroi. Alors qu'on souhaitait galvaniser, choquer, provoquer du mouvement, de la chaleur, de l'engagement, on se retrouvait d'une manière récurrente face à des gens qui, selon toutes sortes de façons, nous disaient « oui, mais qu'est-ce que je peux faire, moi ?» Et c'était modulé de plein de façons. Les gens un peu arrogants qui disaient « Bon, mais vous savez très bien qu'il n'y a rien à faire, mon cher monsieur, rentrez chez vous. » Puis il y a les gens complètement désespérés qui nous sommaient d'arrêter de parler parce que c'était trop troublant, en passant par ceux qui se pensaient très original en soulevant l'interrogation. Le paradoxe, enfin, l'étonnement, c'est souvent ça l'étincelle dans un projet, l'étonnement que nous partagions, lui et moi, c'était que la question « Que faire ?» il y a un peu plus de 100 ans, voire 150 ans, était galvanisante. Lorsqu'on se demandait que faire, tout de suite, on était dans l'action, comme le dit Jean-Luc Nancy, là, un des auteurs d'un que faire, il y en a eu tellement. Poser la question que faire, c'est déjà faire, quoi. C'est déjà être dans le faire, quoi. C'est même déjà une question inutile, quoi. Parce que bon, et on s'est demandé, comment cette question-là, qui pouvait déboucher sur des révolutions, aujourd'hui, soutenue à la manière de Calimero, quoi. C'est-à-dire le petit personnage accablé, le petit chose, claquemuré dans son studio, à se demander en mangeant des pizzas surgelées, qu'est-ce qu'il peut bien faire lui en regardant TF1. Bon, et bien évidemment, il y a rien qu'on peut faire puisqu'on se positionne soi-même dans cette situation d'impuissance qui est celle de l'individu qui est vraiment en plein désarroi et qui, du fait d'une modalité qui est plus celle de la politique mais de la gouvernance, ne se découvre que dans son individualité stérile. Bon. Et évidemment, il y a beaucoup de raisons qui font qu'on on en arrive à cet état d'apitoiement. Une d'entre elles, enfin c'est la conjoncture générale dans laquelle on est. Nous vivons lorsque nous engageons dans les enjeux du temps une période sans pareil. Et qui dit sans pareil dit impensable. Et la première chose que j'essaie de faire dans le livre, c'est récuser l'adage voulant que comparaison ne soit pas raison. Non, au contraire, comparaison est raison. C'est-à-dire, quand on raisonne, c'est toujours en pensant à quelque chose. Il n'y a qu'à voir nos réactions lorsqu'on est face à une tenue vestimentaire. Ça me fait penser à. Tout nous fait penser à. Bon, surtout dans un pays comme la France, où souvent l'histoire est plus importante que le présent, tout nous fait penser à. Bon, mais comment on pense à quelque chose lorsqu'on nous dit « tel phénomène météorologique ne s'est jamais produit depuis des millions d'années ». Qu'est-ce qu'on nous dit? À quoi on pense à lorsqu'on est confronté à un discours nous disant jamais n'y a-t-il eu une telle extinction de la biodiversité depuis des millions d'années? Et en fait, on est dans une situation où tout est sans pareil. Et là, on pourrait parler aussi par rapport à la modernité, qui est une période importante et longue, au bris d'approvisionnement annoncé en ce qui concerne les énergies ou au problème, là aussi, d'approvisionnement en ce qui concerne les minerais qui sont indispensables au fantasme d'une transition énergétique passant par d'autres moyens, et ainsi de suite. Donc, on est face à une conjoncture inouïe au sens où elle n'a pas de pendant. Si vous parlez de l'envahissement de l'Ukraine par la Russie, vous pouvez toujours penser à la Deuxième Guerre mondiale ou à des guerres d'envahissement. Si vous pensez au Covid, vous avez toujours des précédents, mais pas là.
C'est pour ça que tu parles d'inouï. Et justement, je me fais un peu l'avocat du diable, enfin, oui, du diable. Est-ce que tu ne penses pas que si on était en 1928, par exemple, avant la crise de 1929, les observateurs de l'époque ou les philosophes comme toi à l'époque auraient pu dire ce qu'on est en train de vivre est inouï, ou si on est à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, on était aussi face à une forme d'inouï. Pourquoi cet inouï-là que nous vivons aujourd'hui est plus inouï, ou l'est-il, que les autres inouïs?
Mais il est vrai que dans tout événement, il y a de l'inouï. Il y a toujours quelque chose de singulier à un événement. Il y a toujours quelque chose d'irréductible à lui-même. Ce qui changeait en 1914, c'est l'échelle. Mais la notion de guerre, elle, restait à peu près la même. Bon, et l'échelle, on l'a un peu découverte chemin faisant. Et on n'a pas su en 1914 qu'on déclenchait une guerre mondiale. Je veux dire, ça s'est produit autrement. C'est après coup qu'on la nomme ainsi. Bon, et aussi, on pouvait toujours se dire qu'il y allait quand même d'une volonté humaine, d'où les pacifistes qui disent bon, on a les moyens, dire politiques, de faire en sorte que le pire n'advienne pas. Aujourd'hui, on est dans quelque chose de tout autre. Le réchauffement climatique, à moins d'être encore très orgueilleux, ce n'est plus une affaire humaine. Bien sûr que l'activité humaine que les capitalistes identifient très pudiquement ainsi, mais qui veut en quelque sorte dire l'activité industrielle principalement de l'Occident et des bénéficiaires principaux du capitalisme. Bon, cette activité humaine est bien sûr responsable de la façon dont le système Terre se détraque par rapport à ce qu'on a connu très longtemps, mais très longtemps. Mais cette sortie des gonds du système Terre aujourd'hui est autonome et exponentielle. Quand même qu'on se tairait tous aujourd'hui à manger de la luzerne et avoir une empreinte écologique à peu près nulle, ça continuerait de lui-même parce que le processus est enclenché. Vous avez la fonte des glaciers. Imaginez que cette table est un glacier, elle fond à vue d'œil, elle réfléchit moins. Les rayons solaires. Donc, les espaces océaniques qui sont, eux, grandissants, captent davantage de chaleur, ce qui entretient le phénomène de lui-même jusqu'à ce que le pergélisol, à un moment donné, se fende, libère du méthane qui est naturellement contenu depuis des millions d'années. Et là, on a un gaz à effet de serre plus redoutable encore, et de beaucoup. Et là, vous entrez dans une logique où on perd, en fait, une autre riche en forêt par année, donc moins de puits de carbone, et le reste, et le reste. Et c'est parti de lui-même. Et d'ailleurs, les tonnes de mètres cubes de CO2 qu'on envoie dans le ciel à chaque année vont avoir leur effet seulement dans 10 ans. Donc déjà, on vit aujourd'hui ce qu'on a généré en 2014. Donc vous voyez que le processus est enclenché. Donc ne pensons pas, comme on pouvait le faire il y a 100 ou 150 ans, que nous sommes aux commandes. Nous subissons le désastre que nous avons organisé, et le « nous » est problématique.
Je vais justement te lire, je ponctuerai notre entretien de citations que j'ai relevées dans ton texte, qui correspondent. « Nous enfonçons inexorablement dans le récit tragique de notre régime. Cela perdurera jusqu'au jour où le réel prendra d'assaut nos sociétés pour leur inculquer ce qu'elles tardent, le sens des limites. La transition énergétique est en réalité une addition énergétique et nous payerons la note. » Mais à t'écouter, on se dit que cette note, quelle est-elle cette note? Enfin, je veux dire, elle est en constante évolution. T'as l'impression que chaque année, chaque mois, chaque jour, tu vas payer l'addition. Et à la fin, à t'écouter, il y a une sorte de tragique, quoi. Enfin, qui d'ailleurs peut-être te rend nerveux ou te rend à écrire ce livre. Ça a pas dû te. Je vais pas te poser la question stupide du pessimisme ou de l'optimisme, mais ça plombe quand même le moral.
Oui, non. Oui, non. En fait, ce qui nous plombe le plus, c'est d'être orphelin d'objets. Nous n'avons pas d'objets. J'insiste là-dessus. Oui, et c'est la raison pour laquelle il y a deux chapitres avant que j'en arrive à une proposition objective. C'est pour montrer la nécessité de se donner un objet pour ne pas choir dans l'angoisse ou l'anxiété. Un objet est quelque chose de structurant. Pour les gens du Moyen-Âge, la chrétienté était un objet structurant. Au XVIIIe siècle, la science, la raison est un objet structurant. Un objet, c'est ce sur quoi la pensée porte en tant qu'elle organise l'action. Mm-hmm. Bon, le socialisme a été un objet structurant. Bon, aujourd'hui, l'écologie politique peine à se donner des objets structurants parce que tout va trop vite. Je veux dire, soyons indulgents, il ne s'agit pas de jeter la pierre. Tout va trop vite, va si vite. Rachel Carson parle des insectes dans les années 60 qui doivent s'adapter à 500 nouveaux produits chimiques par an. Mais nous sommes un peu ces insectes-là. Nous devons nous adapter non seulement à des effectifs produits chimiques qui nous pourrissent la vie, mais à, sur un plan symbolique, psychologique et intellectuel, à des mutations qui vont tellement vite que nous n'arrivons pas à suivre. Là, je parle pas encore de l'informatique hein, et de combien de productions qui nous échappent. Et nous n'arrivons pas à nous donner un objet structurant. Nous sommes complètement éclatés. Et tout ce que... Lorsqu'on est dans cette situation-là, forcément, on angoisse. Qu'est-ce que c'est l'angoisse? Beaucoup plus que l'anxiété, l'angoisse est ici le maître mot. Mmh. Hein, l'angoisse concerne des états d'âme douloureux, privés d'objets. Lorsqu'on est angoissé, on a des espèces de bouffées d'affect qui n'ont pas d'objet correspondant. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est angoissé? C'est la pire chose à faire. On cherche des objets de substitution. Ça va être qui? Ça va être la femme voilée, ça va être je ne sais quelle figure publique, ça sera un bouc émissaire qui se servira d'objet pour consoler le sujet qui est dépourvu d'explications quant à son malaise. Et ce qui explique énormément de faux débats qui pourrissent la vie publique aujourd'hui et qui sont débusqués grâce à des médias comme celui-ci. Bon, mais pour arriver à s'en sortir, l'intérêt est pour l'écologie politique est de concevoir des objets qui sont à la fois lucides et joyeux. Lucides, parce que c'est pas la peine de nous parler de développement durable, de
justement,
capitalisme vert.
Justement, tu parles de hold-up sémantique à un moment donné, et c'est vrai que c'est très intéressant parce que tu en réfléchissant sur tes questions d'objets, tu définis d'abord des tas de faux objets ou de fausses directions vers lesquelles les médias, enfin, et les politiques, puisque, enfin, c'est, mais surtout les médias d'ailleurs nous amènent, c'est, tu t'en prends par exemple au développement durable, mais il y en a d'autres, mais est-ce que tu peux expliquer pourquoi le développement durable est un faux objet et pourquoi c'est particulièrement bidon que d'aller dans cette direction-là?
Mais parce qu'on voit bien que ce sont des objets qui ne répondent pas de l'envergure des enjeux. Le développement durable, c'est une réponse déjà de 1987 hein, de la commission Brundtland, commission onusienne portant sur le développement et l'environnement, hein, une réponse en fait en 1987 au rapport Meadows de 1972 du Club de Rome qui lui parlait de société viable, sustainable society, hein, et ça je reviens sur les termes d'origine anglaise parce qu'on va voir qu'ils sont mal traduits, mais la société viable dont parlait le rapport Meadows qui s'intitulait « Limite à la croissance hein, » faisait du développement l'objet de la pensée. Le développement, c'était l'objet de la critique. On disait, mais en raison du développement, pour ne pas dire à cause du développement, voilà où nous en sommes, et ce qu'il faut limiter, c'est le développement. Et le tour de passe-passe formidable de ces sémanticiens hein, idéologues hein, a été l'air de rien de faire passer le développement du statut d'objet au statut de sujet. Et le développement s'est trouvé en quelque sorte le substantif éventuellement adjectivé, hein, social, humain, durable, et ainsi de suite. Le développement s'est trouvé le sujet de l'histoire. Si vous voulez dire lutter contre la pollution, la crise écologique, eh bien, il vous faudra penser le développement. D'une façon ou d'une autre. Et bon, ça tombe bien parce que nous, on a le pognon, parce qu'en polluant beaucoup, on s'est fait énormément de capitaux et c'est nous qui avons aujourd'hui les fonds requis pour générer ces grands parcs hein, de tours éoliennes, hein, cette énergie solaire. Écoutez, les gens de Total, c'est exactement ça. Donc là, vous avez un tour de passe-passe mais qui consiste à faire passer le développement pour une panacée. Alors, du moment qu'il est durable, ce qui est un oxymore.
Mais prenons cet exemple-là. Et qui décide et comment se décide ce hold-up sémantique? C'est une sorte de mouvement de masse des médias, c'est une sorte de... Mais il n'y a pas de stratège qui se dit on va lancer une campagne pour empêcher l'écologie politique d'exister, enfin...
Fabrice Nicolino a de bons éléments de réponse quant à cette question-là. D'ailleurs, ça peut être des gens comme Maurice Strong, des gens extrêmement... influents dans le mouvement pseudo-écologiste, qui ont compris dès les années 80 qu'il fallait couper l'herbe sous le pied de la critique écologiste et faire passer le capital pour écologiste lui-même, de façon à occuper le terrain. Et donc, effectivement, le développement durable a été une sorte d'opération sémantique, comme le terme gouvernance et comme d'autres, pour s'assurer qu'on utilise des mots mous. Hein, ce qui provoque ce que j'appelle une anesthésie de l'esprit. C'est des mots qui mangent pas de pain, qui dérange pas, qui porte sur rien, qui passe, qui permettent, hein, comme le disait Serge Danet à propos de Jacques Tati, qui permettent la communication de rien. Tout communique, mais on ne dit rien, parce que tout est flou, tout est vague, et ça glisse. Mmh. Gouvernance, développement durable, responsabilité sociale des entreprises, tout ce jargon effrayant est efficace du fait de ne rien dire et de permettre le maintien au pouvoir de cette espèce d'extrême-centre qui n'autorise rien d'autre que sa novlangue, hein, et qui diffame toute personne ne la partageant pas. Mais pendant qu'on parle de développement durable, on ne parle pas des enjeux. On laisse entendre, presque de manière subliminale, que les entreprises vont s'occuper, hein, du problème écologique comme elles s'occupent de tout. Bon, c'est multinational.
Tu dis, à un moment donné, tu fais appel à la psychanalyse et tu dis, évidemment, je te lis encore, hein, « L'angoisse écologique ne produit pas de toute pièce le bouc émissaire ciblé par les racistes, mais ce schème qui restait confiné à la marge, en dormance ou dans les interdits de la conscience, se trouve frénétiquement investi dans des moments d'angoisse où un quantum d'énergie psychique à l'air libre requiert de porter sur un objet. » L'hystérie d'angoisse de ce nouvel homme au loup, là tu fais référence à Freud, s'amplifiera, lui conférant une émulation, une fausse impression de légitimité morale. Les propriétaires de médias attiseront enfin ce terreau psychopathologique en saturant de leur jappement. D'abord, je trouve que c'est très bien écrit, enfin tu utilises du langage de la philosophie, de la psychanalyse, mais tu as aussi des métaphores qu'on comprend, quoi, de leur jappement, des émissions de haine s'étirant à la manière d'un continuum. Ils feront la promotion d'une idéologie d'extrême droite, retournant contre eux-mêmes les citoyens désorientés avec leur propre énergie. Une économie psychique délétère triomphera alors en détruisant tout, quoi. En fait, c'est ta réflexion sur l'écologie politique, pourquoi elle n'y arrive pas. Et tu vois que se met en place un autre type d'idéologie. Là, on parle de l'extrême droite et surtout la mainmise les médias, la manière dont les médias structurent le paysage. J'imagine, toi qui vis au Canada et nous qui vivons en France, là, tu viens d'arriver, t'es arrivé hier, je crois. C'est exactement le même processus là-bas qu'ici, où vous êtes un petit peu en avance avec Trump à côté.
C'est comparable à divers degrés. L'angoisse est un terreau fertile pour l'extrême droite. C'est un terreau fertile parce que l'extrême droite offre de la paresse intellectuelle. Et ça, on minimise un peu trop. Je crois qu'on c'est une erreur de discuter avec l'extrême droite à partir de ces thèmes. Oui. En disant, vous savez, les immigrants, c'est bien qu'ils soient là, ils apportent le bien, qu'est-ce qu'on ferait de bon. Ce qui est intéressant, c'est de voir, au fond, quelle substitution a lieu lorsqu'on s'intéresse au thème de l'extrême droite plutôt qu'à d'autres enjeux. Bon, qu'est-ce qu'on essaie, au fond, de quoi se détourne-t-on? Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'authentique raciste qui, effectivement, au premier degré, milite en fonction de leur délire et en rajoute à chaque jour. Mais il y a une sorte de conformisme qu'on observe, qui est inattendu dans l'histoire, qui est étonnant, qui est inquiétant, de la part de gens qu'on n'aurait pas imaginé aller dans cette direction-là, sur le plan du vote, sur le plan du discours, sur le plan de la pensée, et qui, au fond, chez ces derniers arrivés, constitue une série de prothèses pour se protéger contre quelque chose d'inouï, d'insupportable. Bon, et il nous faut des faux objets, des faux débats, des faux discours pour occuper l'esprit. Bon, et pourquoi ça marche davantage là qu'à l'extrême gauche? On pourrait se poser la question, hein, bon, où les solutions sont, ou enfin les avenues sont plus pertinentes. Je crois que c'est en raison de la paresse qu'offre le discours d'extrême droite. Parce que le discours d'extrême droite, qu'est-ce qu'il finit par dire? Finit par dire qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, le corps public est sain. Le problème, c'est qu'il y a, au fond, un parasite. Il y a quelque chose dont il faut faire l'ablation, qui nuit, qui contamine le corps social. Mais si on fait subir une ablation à cet élément étranger, tout va bien, on va pouvoir rester dans le formol de l'histoire, faire un avec le monde, et jouir de notre pulsion de mort à l'infini, en étant une seule cellule. Bon, et c'est ça qu'on promet. On promet pas de faire quelque chose. Il n'y a pas de que faire du côté de l'extrême droite. Il y a un faire un. On va faire un avec le monde. Et tout ce qui est étranger à ce fantasme du faire un, on va le chasser. On va s'immuniser contre lui et on sera dans une sorte de moment absolu de l'histoire. Ce qui fait que ces gens, j'ai essayé de rester poli, radotent le même discours à l'infini.
Alors, c'est intéressant parce que, à contrario, si on parle des écologistes et de l'écologiste, pas au sens politique français, les Verts, etc., mais l'écologiste, c'est-à-dire l'homme qui pense la nature, l'homme qui veut changer le monde à travers une réflexion écologique, etc., je voudrais que tu interviennes sur deux éléments. Tu dis d'une part que cet écologiste-là est l'ennemi à abattre. Dans une hiérarchie d'ennemis à abattre, celui-là est l'ennemi à abattre. Et tu dis aussi qu'une des raisons pour lesquelles c'est l'ennemi à abattre, c'est pas uniquement une raison politique, c'est aussi lié à l'angoisse. Et que cet écologiste est générateur d'angoisse. Parce que, par exemple, toi, est-ce qu'on peut te définir comme un écologiste ?
Oh, ben certainement, mais en même temps, j'ai
mais
contesté...
Mais là, t'es quelqu'un d'autre. Mais je veux dire, au fond de toi, quand on lit le livre, c'est le livre d'un écologiste. En tout cas, de quelqu'un qui réfléchit, qui pense l'écologie, pas au sens politique du terme, mais au sens... Et justement, t'es générateur d'angoisse aussi, parce que le portrait que tu fais de cet inouï nous provoque une angoisse, et c'est dans ce sens que je veux dire ça. Et donc, tu vois, c'est pour l'écologiste et l'ennemi à abattre, pour ces deux raisons-là. Ouais, quoi.
Peut-être dans le premier chapitre. Mais disons, pendant que des philosophes de l'écologie et des écrivaines et écrivains de l'écologie, qui sont parmi les personnes les plus actives dans le champ de la pensée sur ces questions-là, patiemment, avec le temps requis, génèrent et élaborent des objets. Je pense à Baptiste Morisot, avec cette question des chimères, qu'un concept intéressant. Je pense à Antoinette Richner, qui pense, au fond, l'éclosion d'une biorégion en situation catastrophique. Gaspard Koenig, qui s'intéresse à l'évolution de deux jeunes esprits qui s'essaient à autre chose, à leur manière respective. Donc, on a des gens qui essaient d'élaborer des objets. Gilles Vigneault, qui nous propose la petite fille qui s'appelle Gaïa, avec un Y, bon, qui fait la leçon à son grand-père. Bon, voilà, on a
sur
des objets.
La barbe de son grand-père.
Oui, c'est ça, exactement.
Tu peux expliquer, parce que les gens qui nous écoutent...
Ce sont que des exemples d'écrivains, d'écrivaines, de gens de théâtre et de philosophes, et il y a d'autres disciplines aussi, évidemment, dans les humanités, qui essaient de donner un objet pour nous faire sortir de l'angoisse. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'éco-anxiété et l'éco-angoisse ne sont pas un problème. C'est normal, c'est un signe de santé mentale aujourd'hui que d'être mal. L'inquiétude, pour ma part, porterait davantage sur une personne qui se sentirait bien face à tout ça. C'est normal d'être angoissé. Le problème est d'en sortir. Il ne faut pas y stationner là son esprit. Il ne faut pas simplement se complaire en disant « je suis angoissé, occupez-vous de moi ». L'idée, c'est de voir comment on peut... à passer à travers l'angoisse en se donnant des objets. Est-ce que donner des objets et sortir de l'angoisse, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement mobiliser cette énergie qui est avide vers quelque chose de structurant, qui est crédible. Ça sera pas le développement durable, parce qu'on voit bien que c'est un truc à gogo. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que si on ne choisit pas cette voie-là exigeante, qui est d'essayer de se donner des objets ou de comprendre ce que nous donnent en partage les auteurs qui en élaborent, ben on est face à une sorte de galerie de personnages sociologiques. Il va y avoir sur un mode psychanalytique, là, c'est-à-dire celui qui cherche des objets de substitution sur un mode anal. Ça sera, s'il est très riche, l'île où on se fantasme capable d'aller si jamais tout pète, ou si on est plus pauvre, ça sera le survivalisme, où on ne doit qu'à soi-même. Bon, et je suis caricatural, évidemment, parce que c'est plus compliqué, mais ça sera aussi l'hystérique, qui cherche à tout prix quelque chose. Bon, et ça sera souvent du côté du racisme que s'exprimera ce désarroi. Ou du côté d'une identité sociétale vraiment exacerbée là, sur l'identité d'un moi, là, comme ça, tout à fait distinct. Bon, ou ça sera encore la névrose obsessionnelle, dire des soulèvements de la Terre, que ce sont des terroristes, en haïr le messager, pour refouler le message. Ou sinon, dernière option, ce serait la conversion, l'hystérie de conversion qui consiste à se dire « Oh grand Dieu, tant mieux, il n'y a plus de paille de plastique dans les cafés, maintenant on a des pailles en bois. Hein, » tout est réglé. Quoi, bon, ou la géo-ingénierie va tout régler. Bon, ça, c'est des façons, soit paresseuses ou en tous les cas faciles, hein, de surmonter l'angoisse qui nous y entraîne toujours à nouveau. Enfin, nous y font toujours revenir.
Mais à te lire, c'est pour ça que je te posais cette question, j'ai l'impression que l'écologie, si on le nomme comme tel, il sera toujours générateur d'angoisse, donc il n'arrivera jamais à percer ce mur, même avec des livres ou des bons livres comme le tien.
L'expérience que j'ai faite, en étant à la fois éco-anxieux et éco-angoissé, bon, l'éco-anxiété porte sur quelque chose, mais sur un mode frénétique. Par exemple, on peut vivre près d'une côte et voir qu'à chaque tempête, on perd un mètre de terre et craindre pour sa maison. Mmh. Bon, ça, c'est de l'éco-anxiété. On craint quelque chose. On peut être agriculteur et craindre les sécheresses. On craint quelque chose. Ça, c'est de l'éco-anxiété. L'éco-angoisse, c'est quand on est mal par rapport au problème général. En disant, ça va vraiment pas et je sais même pas par quel bout prendre l'enjeu. C'est inouï. Donc, on est angoissé. Bon, c'est pas le penser. Bon, il y a, depuis une cinquantaine d'années au moins, des gens qui nous aident à investir cette énergie psychique-là dans des objets. Bon, pour ma part, il y a un moment où ça fait tilt, c'est quand je suis tombé sur des écrits sur la biorégion. Il y a ça, c'est un objet intéressant. Pourquoi? Parce que d'une part, il est structurant. Je disais tout à l'heure, être lucide, mais gai à la fois. Parce que la lucidité sans la gaieté nous fait sombrer dans la plus grande des tristesses. La gaieté sans la lucidité nous rend imbéciles heureux. Bon, l'idée, c'est d'être capable de joie, d'engouement, de stimulation, tout en étant lucide. Et parce qu'on est lucide, c'est parce que c'est lucide qu'on est capable de s'engager, parce qu'on ne nous cache rien. Hein. Et la notion de la biorégion, telle que je la redéfinis dans le contexte d'aujourd'hui, là, je ne reprends pas telle quelle la définition de Alan Van Newkirk de 1975, mais telle que je la redéfinis, en passant par ce qu'ont écrit d'une manière tout à fait salutaire les éditeurs de Wild Project, toute la bande de Californiens qui se sont intéressés à la question de la biorégion, Raymond Dasman et compagnie, en passant à travers cette mémoire-là, ce qui m'a intéressé en mettant à jour cette notion-là, c'est Peter Berg, voilà, c'est de voir comment, dans un impératif historique, il y aura des avenues. Et l'impératif historique, quel est-il? C'est la contraction de la géopolitique de l'échelle mondialisée à l'échelle régionale. Ça, c'est un impératif. C'est pas une option là qu'on peut choisir dans le restaurant électoral là où on nous offre à chaque année des différentes avenues, ça sera un impératif. La géopolitique va se contracter, elle va passer de la mondialisation à la région, comme les gens de Valence sur la côte espagnole aujourd'hui le vivent. C'est quand l'État n'est plus là, quand il y a une catastrophe, qu'est-ce qu'on fait? On se découvre un sujet régional. C'est pas des gens à 1000 kilomètres de chez soi qui vont nous aider, c'est même pas un État, c'est encore moins les entreprises. On se découvre laissé à soi-même. Et ces chocs-là vont créer une conscience bio-régionale. On peut très bien choisir de s'entretuer et entrer dans une sorte de guerre civile locale, on peut aussi s'entraider. Et la question de la bio-région, c'est de penser l'entraide à l'échelle régionale en tant qu'elle confère du sens à la condition de respecter la région dont il faut prendre soin parce qu'on constate en dépendance.
C'est-à-dire que tout ton livre nous amène à ça, mais j'y reviendrai après. Oui. Je te cite encore, parce que je voudrais que tu réagisses à cette citation que j'ai cochée, et tu dis « Le philosophe nous invite ainsi à entrer dans ce qu'il appelle le temps mythique, un temps nécessairement créatif pour les sciences et la pensée, où doivent être réfléchies une prolifération de nouveaux êtres, une production de nouvelles modalités relationnelles entre les êtres, de mutations d'êtres à titre de normes, une ontologie déchaînée des êtres, de la métamorphose, qui font effraction, non pas infraction, et qui font effraction hors des statuts que la modernité avait inventés pour eux. » C'est Richard White qui dit ça, et tu dis comme à l'époque où Européens et Autochtones apprenaient à générer des modalités d'organisation politique à même le lieu d'Amérique qui les voyait naître.
Baptiste Morisot, comme moi, s'est intéressé à un cas historique, ce qu'on a appelé le middle ground. Ça n'a pas été traduit dans les ouvrages, mais j'ai parlé de terrain d'entente, faute de mieux, hein, ou point commun. Hein, c'est l'idée qu'au terme d'une immense guerre civile entre nations autochtones en Amérique du Nord, il y a quelques siècles, qui a duré longtemps, là, en raison de la colonisation qui a créé toutes sortes de tensions là, sur le territoire et une surexploitation du territoire, on appelle tri, beaucoup de populations ont été délocalisées vers l'ouest, dans la région des Grands Lacs. Et là, on a dû faire ce qui était la première république authentique. D'Amérique sans le terme, parce que déjà parler de république,
c'est à quelle période ?
C'est au XVIIe, XVIIIe siècle. Enfin, c'est sur le temps long. Bon. Et dans cette période-là, Français, Anglais, Européens en général, Euro-descendants, Iroquois, Algonquins, ainsi de suite, avec toutes sortes de ramifications culturelles, se découvraient devoir créer un sens politique propre au lieu. Et c'était peut-être la première biorégion, je veux dire, d'Amérique. C'est-à-dire, c'était un moment où tous devaient inventer une façon de cohabiter. Et le projet colonial s'interrompait là, au profit d'une forme nouvelle. Mm-hmm. Bon, et au fond, ce dont on parle là, quand il s'agit d'évoquer les chimères, ne concerne pas seulement les espèces, c'est-à-dire les ours bruns qui montent vers le nord parce qu'il fait trop chaud, et les ours blancs qui descendent parce que tout fond, et qui viennent par se rencontrer puis créer une nouvelle espèce, si on veut. Bon, c'est aussi sur un plan symbolique et politique qu'il y a des mutations. Et si on veut être en phase avec ce qui vient, il faut être créatif. On va simplement se demander si le ministère de l'Environnement va faire je sais quoi. Il faudra être créatif. Et je pense que ce palier biorégional-là, qui est appelé à s'additionner à ce qui existe et qui sera de moins en moins fonctionnel, est une réponse au sens de la responsabilité quant à l'impératif qui surviendra, à savoir des bris d'approvisionnement, une incapacité des États à répondre des crises, comme on le voit en Espagne ces jours-ci, et une incapacité pour les organisations commerciales de satisfaire ce qu'on appelle la demande. Des bris d'approvisionnement, on en a vu ces dernières années, et c'est appelé à durer. Mmh. Et à 5 centimes.
Page 76, tu dis « C'est ultimement une paresse intellectuelle crasse qui finit par triompher, se persuadant qu'amputer des éléments indésirables et malsains du corps social préservera du reste son authentique pureté. » On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais « l'action aura lieu à vif. » De quelle action s'agit-il ? Et tu dis « Hannah Arendt l'avait perçu, le principal avantage du menteur par rapport à celui qui s'astreint à une certaine vérité, est d'avoir tout le loisir de dire exactement ce qui convient, à ceux-là qu'il s'agit de persuader. Ainsi domine et fructifie la pulsion de mort. » C'est autour de la pulsion de mort et de l'action à vif que je voulais te faire.
Oui, mais ça me permet aussi de signaler que c'est le menteur qui angoisse. C'est pas l'écologiste. C'est le menteur qui angoisse. Parce qu'on sent bien que c'est pas vrai. On sent bien que c'est pas la réponse. On sent bien qu'on gagne du temps. On sent bien qu'on est dans le leurre. Quand on nous dit développement durable, je sais trop, on va peindre en blanc des montagnes. Là, on est dans un autre type de chimère. Oui. C'est ça qui est angoissant. C'est quand on sent l'absence de réponse, mais quand on entend un discours qui tient la route et qu'on sait, c'est-à-dire à l'échelle régionale, qui est finalement la seule qui restera, il faudra apprendre à s'organiser. Et de toute façon, on va y refouler. Moi, je suis bien placé pour en parler, parce que j'habite la péninsule acadienne, qui est loin des grands centres. On est au bout du monde. Et on sent que la sève du pouvoir, qu'elle soit privée, publique, se rend moins. Et on sent qu'on entre dans un état progressif de déréliction. Et ça, c'est le mot sur lequel je voudrais insister, même s'il est un peu rare. La déréliction, c'est un sentiment d'abandon de la part... Bon, à l'origine, c'était Dieu, mais des pouvoirs. J'habite parmi les Acadiens dans la région atlantique du Canada, c'est-à-dire à l'extrême-est. Bon, dans une péninsule et sur une île où il y a quelques cailloux, après, bon, des îles continentales.
Il y a une université, il y a des écoles, il y a un...
Oui, mais c'est la dernière université. Pour parler en termes français, en faisant des analogies, c'est le dernier Darty. C'est le dernier Starbucks, les fournisseurs sont enfin au bout de la chaîne. Et on voit les ruptures d'approvisionnement parce que le camion arrive à moitié vide. Et on commence à comprendre qu'il va falloir être autonome. Et quand il y a des pluies de verglas, des pannes d'électricité sur des semaines en plein hiver, ce qui est crucial dans une région nordique, on comprend que les pouvoirs sont lents à s'intéresser aux égarés.
Il y a combien d'habitants qui vivent dans
50 000.
Paris? Oui, c'est pas...
Non, mais c'est une biorégion.
C'est une biorégion.
Et l'avenir est à cette échelle. Mmh. Et on le perçoit dans les romans.
Et chez toi, les politiques, il y a des écologistes, il y a des gens qui ont un réel pouvoir, qui gèrent des villes, qui commencent à prendre le pouvoir dans ta région.
Ils se font détester. ils se font détester parce que ce sont des, ils sont vus comme des prophètes de malheur, des empêcheurs de tourner en rond, et il faut absolument faire entrer le discours écologique dans le développement durable, c'est-à-dire le rendre comptable, le rendre manageable. Mm. Hein, et du moment qu'on le fait entrer là, on le stérilise. Bon, et dès que la pensée politique se veut un peu, au fond, subversive, autre, radical au sens où elle revient au fondement des choses, à ce moment-là, on devient des Cassandres. Mmh. On devient des Cassandres, c'est-à-dire qu'on parle d'une langue qui ne résonne pas dans la caisse de résonance que le capitalisme et que les idéologues à son service ont instauré de manière presque exclusive, ce que j'appelle l'extrême-centre. Hein, c'est-à-dire que dès qu'on ne parle pas dans la langue du management, dans la langue de la gouvernance, dans la langue comptable, dans la langue gestionnaire, dans la langue de la croissance, dès qu'on ne parle pas dans ce registre-là, on devient inaudible. Et c'est pour ça que je parle de Cassandre, parce qu'on sait que Cassandre, c'est cette figure mythique, grec, hein, qui s'était vu privé de langage parce qu'elle avait refusé les avances de Zeus. Mm. Mais ça, c'est que quand un écologiste refuse les avances du capitalisme en disant « Viens, on va s'entendre, voilà, je vais te faire fructifier dans ton ONG, hein, et pendant ce temps-là, tu adouberas mes projets, et ainsi de suite. Ah ben, tu veux pas, ben, tu seras inaudible. Quand tu vas parler, on saura t'affubler de toutes les étiquettes péjorative, qui fera en sorte qu'on ne t'entendra plus. Et donc, on crée des Cassandres de cette façon.
Ma question un peu personnelle, c'est portée sur ta manière de la région où tu habites, où il y a 50 000 habitants, etc. Du fait, justement, de ces difficultés à cause du froid, à cause des problèmes d'énergie, d'approvisionnement, etc. Est-ce qu'il y a une prise de conscience plus précoce dans ta région, dans la population, ou est-ce que là-bas aussi, alors d'une manière plus générale au Canada comme aux États-Unis ou en France aujourd'hui, les écologistes sont loin du pouvoir, même si en France on a réussi avec politiquement à sauver les meubles il y a quelque temps, mais on a la manière dont les mots, encore une fois, tu parlais d'hold-up sémantique autour de la politique, tout ce qui est extrême gauche, tout est qualifié d'extrême gauche, les médias on réussit ce combat-là. On est, nous, une sorte de bastion, d'ailleurs, à Blast, où on essaie de... Moi, je ne me considère pas d'extrême-gauche, je me considère comme journaliste d'abord, après, c'est pas... Tu vois, mais est-ce que toi, d'abord, la manière dont tu regardes la France quand tu reviens après 3 ou 4 années, est-ce que tu sens que la situation empire? Et puis, toi-même, arrivant d'où tu es, par rapport à ces questions-là, est-ce qu'il y a un début de rebasculement vers un peu de raison?
Mais par rapport à la péninsule acadienne, le politiste répondrait non, le sociologue répondrait oui. C'est-à-dire que du point de vue de la pensée politique, des concepts généraux, il n'y a pas tellement de changements puisqu'on est abreuvé de discours standardisés, hein, sur le plan de la pensée médiatique, mais sur le plan des actions, petites ou grandes, des discours, des inquiétudes, on voit poindre, au fond, les germes d'un nouveau discours. C'est la raison pour laquelle j'estime vivre dans un laboratoire biorégional où il n'y a pas encore beaucoup d'expériences qui se font in situ et concrètement, mais néanmoins, le terreau est fertile. Maintenant, la France, effectivement, j'y reviens de temps en temps. Je ne sais pas si ça va se reproduire souvent. Je la vois par à-coups évoluer.
Et puis, c'est pas toujours joli.
Oui, de loin. Ce que je constate, c'est à quel point il me semble difficile pour les gens d'ici, pour une des premières fois depuis très longtemps dans l'histoire, de n'être pas première en quelque chose, d'être un pays banal. Regardez ce qui se passe en Ukraine, regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, la France ne pèse vraiment pas lourd. Et c'est un pays devenu banal, comme un autre, comme la Pologne, comme l'Uruguay, comme le Québec, c'est un pays comme un autre. Et c'est très difficile d'être un pays comme un autre quand on porte des costumes très grands. Je l'ai dit dans d'autres contextes, moi si j'étais caricaturiste, je dessinerais systématiquement les figures publiques dans des habits trop grands, comme un enfant porte les habits de son père. Bon, et tout est trop grand par rapport à l'envergure qu'on a effectivement. Je veux dire, quand je vois, par exemple, l'actuel président se donner les attributs qu'avait Mitterrand, le même pupitre, ou faire une conférence de presse à la De Gaulle, c'est franchement immédiatement pathétique. Bon, et c'est emblématique de beaucoup de choses. Et il faudrait peut-être un jour ici qu'on s'admette qu'on a perdu la guerre. Comme dire, commencer par ça, plus bon, tout déclinera. Mais Bon, ensuite, c'est pas mon objet, c'est pas mon champ, je veux dire.
Mais c'était une réflexion par rapport à changer le monde et l'écologie. On en est loin, quoi. Enfin,
oui, mais... Ah,
bah, je devance la fin de ton livre.
Mais c'était... Et surtout, un des grands changements qu'on peut observer lorsqu'on vient de loin et qu'on passe de manière comme ça, épisodique, c'est l'évolution des médias. C'est bien ici que je peux en parler. C'est proprement terrifiant. Je veux dire, de voir que les médias sont devenus des espèces de pseudo-tribunaux où nous sommes de dire des choses. Et d'une manière tout à fait tendancieuse. Et tout ça au service de ce que j'appelle l'extrême-centre, quoi. C'est-à-dire une façon qu'a un pouvoir de, par le marketing politique, se présenter comme normal, pondéré, naturel, juste, pondéré, équilibré, et de, au fond, censurer tout ce qui n'est pas de l'ordre de ce programme qu'il a artificiellement présenté comme centriste. C'est-à-dire favoriser bénéfices des multinationales, les dividendes pour les actionnaires, réduire la portée sociale de l'État, réduire l'écologie politique à du verdissement, rendre précaire le travail, favoriser l'accès aux paradis fiscaux, c'est ça le programme. Mais on le présente comme centriste, on a une espèce de force de frappe médiatique de le faire passer pour tel, et tout le monde va dire c'est le centre. Mais c'est pas le centre du tout. C'est une droite, je veux dire, radicalement libérale et extrémiste. Extrémiste par rapport à son programme, mais extrémiste également par rapport à son attitude. Parce que l'extrémisme, c'est pas être à l'extrémité de l'axe gauche-droite seulement. C'est une attitude. C'est être intolérant à tout ce qui n'est pas soi. Et ces gens-là sont intolérants. Ils violentent les écologistes, ils violentent les acteurs sociaux. Et même en situation de Covid, ce pouvoir-là était même pas capable d'assumer qu'il avait une mission sociale. Il fallait qu'il en parle de manière militaire, avec des couvre-feu, puis la guerre, puis ainsi de suite, parce qu'on pouvait même pas se mettre dans la bouche en des mots de type sociaux, parce qu'il faut nier cet aspect-là des choses. Donc c'est un pouvoir terrifiant, et c'est la raison pour laquelle j'ai l'impression, depuis quelques échéances électorales ici, qu'on a simplement le choix entre deux types de violences. Une, bon, ethnicisante, mais de moins en moins, qui est plus xénophobe que raciste, en fait. Bon, il suffit de voir les têtes d'affiches paradoxales qui le représentent, et une autre, sociale, bon, qui est dans la haine sociale. Mais à part ça, ça va bien.
Non, mais c'est très intéressant de le voir décrit par toi comme quelqu'un qui débarque en France, quoi. Et évidemment, je ne peux qu'acquiescer, quoi. Donc là, et alors, dans les solutions que tu préconises, moi, j'ai découvert, alors, sans être du tout ni marxiste, ni léniniste, ni.
Très difficile de citer Lénine, hein.
Mais citer Lénine, mais c'est tellement. Il fait une liste, je ne vais pas la lire parce qu'elle fait 2 pages. Mais donc, faut dire que dans le livre, ce qui est très intéressant, c'est que tu inventories d'une manière très étonnante, parce que il y a beaucoup d'auteurs, de philosophes, de politiques, d'acteurs de la société qui ont écrit des livres ou qui ont des traités qui commencent par que faire. Donc c'est franchement, toi, c'est un de plus, mais tu changes le vocable, tu fais faire que, et on comprend bien en te lisant pourquoi tu l'as fait. Il y a plein de choses très intéressantes, hein. Tu cites d'ailleurs pas mal d'auteurs français, mais c'est Lénine, quoi. Et Lénine, tu dis, sous-jacente aux affirmations, les questions remuent dans la brochure « Que faire ?» de Lénine. Et donc Lénine a écrit ça en 1902, c'est les questions brûlantes de notre mouvement, et c'est réédité chez SAMHSA, un éditeur belge en 1920. Et alors, je vais en citer quelques-unes. Et dis-moi, pourquoi Lénine, quoi ? Est-ce que Lénine, aujourd'hui, alors on va nous taxer d'être des bolcheviques, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que Lénine était d'abord un penseur de la société et un homme politique au sens premier du terme, quoi. Et donc, il dit, donc, que faire ? Comment passer des idéaux à la pratique ? Des gens, les intellectuels, sont-ils plus habilités que d'autres à penser les conjonctures historiques ? Quelle est la légitimité de ces intellectuels qui s'arrogent la possibilité de formuler à voix haute la question « que faire ?» Comment les convaincre de traiter de ce qu'on ignore plutôt que de les entendre pérorer à propos de ce que l'on sait ? Qu'écrire pour que la connaissance se mue en une conscience collective propice à l'action ? Et je t'en mets une dernière, mais il y en aurait plein d'autres. Doit-on suivre le courant de la petite histoire, là où les accès sont aisés, ou forcer le passage dans la grande, etc., etc. Donc pourquoi Lénine ? Et qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de relire tout ça ? J'invite les gens à relire le bouquin paru chez SAMHSA ou lire ton livre?
Déjà, ce qui est intéressant, c'est que Lénine a écrit effectivement ce petit bouquin « Que faire ?». Et bien qu'il ait été tout à fait écarté de la scène historique, Lénine n'est pas, à peu près pas, c'est une personne qu'on ne cite pas. Quoi. En même temps, une pléthore d'auteurs ont repris son titre. Bon, et je me suis demandé pourquoi. Et la raison, c'est qu'en fait, la question que faire coiffe une série d'affirmations chez Lénine qui sont pertinentes du moment qu'on les transforme sous une forme interrogative. La forme interrogative vient de moi. C'est pas Lénine lui-même qui se pose des questions. Lénine arrive avec des réponses. Bon, mais Lénine lui-même, 4 ans ou 5 ans après avoir fait paraître son titre, Guillaume Fondy en parle très bien dans un livre Que faire de Lénine, je crois, lui-même remet en question plein de choses. Parce qu'il dit, j'écrivais par rapport à 1902. Bon, et au fond, la question que faire, il faut toujours se la poser dans une sorte de jeunesse, dans une sorte de fraîcheur, dans une singularité. Mais ce qui fait la force de...
Mais lui pose ses questions à l'aune de ce qui se passe en Russie à l'époque. Quoi.
C'est avant
la Révolution.
Oui, et tellement avant d'ailleurs qu'il n'est pas le Lénine de 1917. Il est un Lénine qu'on rabroue, Trotsky, Luxembourg, taille en charpie son livre, il est décrié tout de suite. Parce qu'il a un rapport au parti qui est un rapport autoritaire qui déplaît à juste titre à un très grand nombre de militants hein, de l'époque. Mais il reste que ce qui fait le succès de son livre, je pense, et ce qui fait qu'on le cite encore de mille façons, tout le temps, hein, c'est que son titre coiffe une série de propositions qui sont pertinentes du moment qu'on les renverse dans une formule interrogative. Et tout est là. Qu'est-ce que ça veut dire agir? Et puis, ce qui est le plus lucide, c'est quand il se dit, c'est pas parce que, sur le plan des mœurs, on campe sur des bons sentiments que tout le monde va suivre. On aura toujours des adversaires. Qui sont-ils? Comment on les traite? Qui est cette espèce de masse moyenne qui va finir par nous suivre si on fait le poids? Si, il y a un certain nombre de critères. Et ce qui est, dans le bouquin, c'est seulement un jalon explicatif pour essayer de comprendre, bon, le succès de ce titre. Que faire, hein, et aussi voir les raisons, les bonnes raisons pour lesquelles il a été décrié comme quelqu'un comme des penseurs comme Isabelle Stengers ou Vincent Victor, hein, des gens qui disent vous ne me prendrez jamais à poser la question que faire parce qu'elle est trop programmatique, elle
entend. Oui, c'est ça.
Et ce qui m'a intéressé, moi, je ne sais pas si c'est le moment de faire de la grammaire, mais en un mot, c'est que lorsqu'on fait le passage du que faire au faire que, ce que j'ai voulu faire parce que je pensais que c'était plus fécond. Hein, c'est que le statut du que change. Donc, que faire? En fait, le que est un pronom interrogatif qui remplace une réponse à venir, nécessairement. Hein, c'est un complément d'objet direct. Faut répondre à quelque chose. Alors que faire que, c'est une conjonction de subordination qui appelle un subjonctif. Mmh. Et donc, qui appelle du souhait, du désir, une perspective, de l'imagination, et qui aussi décentre la subjectivité jusque, en ce qui nous concerne, le règne animal. Mmh. Hein, à savoir que faire que, c'est faire en sorte que les espèces cohabitent,
et pas
seulement les humains.
Il y a même un moment où tu dis, c'est intéressant, il y a une possibilité, c'est aussi ne rien faire et laisser la nature, la sauvagerie, prendre le pas sur l'humanité, ou ne plus, on en est à un tel point que peut-être ne rien faire va apporter plus de solutions que de faire ce qu'on est en train de faire ce moment.
Mais je serais quand même davantage tourné vers des optiques biorégionales, la permaculture, ainsi de suite, qui se font de composer, de vivre avec, de pas non plus s'annihiler, puis de prétendre qu'en disparaissant, tout ira donc mieux. Je veux dire, c'est une drôle d'option. Mais simplement apprendre à vivre dans la géographie. Et ce que j'apprécie de l'approche biorégionale, c'est que, en son nom, la géopolitique acquiert un sens nouveau, au sens où le préfixe géo vaut autant que la racine politique. Et on fait de la politique dans l'espace, dans le vivant, en fonction de lui, en le soignant, en dépendant de lui, parce qu'on est à une échelle régionale et qu'on en dépend au moins en partie. Parce que c'est un millefeuille, tout ça. Je veux dire, la strate biorégionale n'est pas hegelienne, où il ne s'agit pas d'absorber toutes les autres et d'en faire une sorte de vaste synthèse qui prolonge le mouvement de l'histoire. On n'est pas dans ce type de perspective marxiste ou hegelienne. On est dans une logique, au fond, de millefeuille, où, au fond, dans l'histoire, les pouvoirs ont été stratifiés. Je veux dire, il était clair pour un cerf qui avait à la fois l'armée, le royaume, le seigneur, différentes strates de pouvoir qui pesaient sur lui. Bon, de la même manière, aujourd'hui, si on est honnête, on peut se dire que les banques, les multinationales, les États, les mafias, hein, sont autant de pouvoirs qui coexistent et qui pèsent sur nous. Bon, ben, la strate biorégionale, c'est une strate immunitaire par rapport à ces pouvoirs-là pour exister à l'échelle régionale qui, bon an mal an, deviendra la principale.
Alors, j'ai découvert, grâce à toi, j'ai découvert plusieurs choses grâce à toi, mais il y a un mot que je connaissais pas, qui exprime à la fois le remède et le poison, c'est le mot de pharmacon. Ouais. Qu'est-ce que le pharmacon et pourquoi tu en parles?
Oui, c'est par rapport à Bernard Stiegler qui a pris ça de Derrida sur la technique qui est pour lui effectivement un pharmacon, c'est-à-dire ce rappel étymologique, à savoir que chez les Grecs, le pharmacon, c'était à la fois le remède et le poison, qu'on trouve aujourd'hui encore en anglais, parce qu'en anglais, si vous allez à la pharmacie...
Mais c'est quoi le pharmacon aujourd'hui? Alors, comment tu le...
C'est pour Stiegler, c'est la technique.
La technique.
Bon, chez les anglophones, encore aujourd'hui, pour avoir des médicaments, on va dire « drug », mais la drogue, c'est aussi ce qui peut nous éclater le cerveau. Bon, donc c'est ça, le remède, c'est aussi toujours une maladie. Et aujourd'hui, la technique, enfin, est à la fois une maladie et un remède. Bon, et on sait que dans le monde hospitalier, on a bifurqué vers la technique pour le meilleur et pour le pire. Bon, et moi quand même, je m'interroge sur, dans ce passage-là, sur ce qu'il faut défaire aussi, de quoi il faut se défaire pour défaire l'adversaire. Hein, il faut faire l'inventaire. Et il y a des choses dont il va falloir apprendre à se passer. Les téléphones cellulaires, l'informatique à tout prix, les voitures électriques. Il y a un moment où il faudra cesser de passer par la technique. Ce qui ne veut pas dire annihiler la technique, parce que n'importe quel instrument peut être défini comme un objet technique, même un ustensile le plus banal. Mais il faudra quand même faire le procès de la technolâtrie.
Parce qu'on n'en a pas les moyens. De se défaire, justement parce qu'il y a le remède et le poison en même temps, quoi, de la technique.
Et d'autant plus qu'aujourd'hui,
la technique, mais
quand on est empoisonné, très souvent le remède c'est le poison aussi, ouais. Parce qu'on nous dit, on nous donne des conseils en ligne pour se servir d'Internet, pour sortir d'Internet. Bon, je peux pas aller dans le détail, c'est un peu caricatural, mais je réfère au texte. Mais l'idée, c'est simplement que faire, c'est aussi défaire. Bon, et c'est aussi réapprendre.
Alors, je trouve intéressant parce que ça ouvre des perspectives. C'est tu cites Derrida, mais tu cites aussi donc son complice, hein, Jean-Luc Nancy, et tu dis, donc tu poses la question, là, toi, alors que faire? Et lui dit, il faut changer de question, il faut quitter la position stationnaire et contemplative qu'elle suppose et considérer sa contradiction fondamentale. Demander que faire, c'est déjà muter par-delà les possibles déjà repérés. C'est déjouer le réel historique, le faire autre au sens où cet autre monde possible qu'on vante conserve pour soi une grande part d'altérité aussi, comme dans faire sens, faire jour, faire l'amour. La civilisation occidentale s'enfonce toujours davantage dans l'effondrement répété de ce qu'elle fonde toujours à nouveau, est appelée à renoncer aux prothèses tout en isme qui supplée pauvrement l'absence. C'est un mélange de ce que toi tu écris et de ce que Jean-Luc Nancy écrit.
Oui, c'est ce qui m'a fait glisser vers l'expression « faire que ». Parce qu'effectivement, chez des gens comme Derrida, Nancy, de Victor, Stengers, peut-être à sa façon Bruno Latour, qui a une façon très paradoxale de se demander que faire, bon, on débouche sur des réflexions qui ne sont pas programmatiques, qui ne sont pas celles du parti, qui ne sont pas celles de la grande instance qui nous dit, qui nous souffle la solution, mais qui sont font de l'ordre plutôt d'une responsabilité et de tentative. Et la biorégion, ce qui est intéressant, parce que c'est là-dessus que débouche l'exclamation, mais non pas la question, hein, l'exclamation du faire que, hein, c'est de s'essayer à un projet biorégional qui, de toute façon, surviendra comme projection par la force des choses. Aussi, également pour l'informatique dont on parlait à l'instant, ou la technologie, par la force des choses, il n'y aura pas suffisamment de minerais pour renouveler le parc informatique par la force des choses. C'est une expression que j'emprunte à Hannah Arendt dans un livre écrit en anglais, mais en français dans le texte. C'est une expression qui est en français, par la force des choses. Parfois, la politique, l'événement politique s'impose. C'est pas une décision humaine, c'est pas une élaboration de scientifiques, c'est pas une délibération parlementaire qui provoque un changement. C'est la force même des choses qui fait que tout d'un coup, il faut vivre à une échelle régionale parce que ça brise, parce que tel canal géostratégique est asséché ou est bloqué ou est assailli parce qu'il y a une crise, parce qu'il y a plus de gaz, parce que. Oh, il arrivera bien un moment où ça ne suffira plus. On peut pas être toujours dans la croissance dans un monde fini. On agit déjà. déjà comme s'il y avait 3,5 planètes. Donc, il arrivera un moment où il faudra agir à cette échelle-là. Et il y aura de la place pour l'originalité, parce que la biorégion, ce n'est pas un projet programmatique au sens où on a le petit manuel, il n'y a pas de biorégion pour les nuls. On se dirait, voilà, comment on applique ça. Non, mais c'est qu'à l'échelle de l'espace qu'on apprend à occuper, on est dans un rapport dialectique.
Alors, tu soldes aussi les comptes, et c'est assez amusant la manière dont... Parce que moi, je fais moins de débats que toi, mais c'est vrai qu'on est tout le temps abreuvé par ces questions du pessimisme ou de l'optimisme. Et tu donnes l'exemple, d'ailleurs, pourquoi c'est impossible de penser en termes d'optimisme et de pessimisme, surtout quand on prend en compte le réchauffement climatique et l'inouï dans lequel on est en train de vivre. Et tu prends la métaphore assez de l'avion, quoi. De l'avion, quand un avion est en train d'aller mal, tu te poses pas la question d'être pessimiste ou optimiste. Il faut que tu agisses et il faut que tu. Et là, on est dans cette situation aujourd'hui.
Je prêcherai par l'exemple dans quelques semaines en disant qu'il faut cesser de le prendre, l'avion, justement, mais c'est la même chose pour la fameuse maison en feu, parce que c'est surtout la métaphore qu'on nous sert. Hein, la maison est en feu, on sait d'où ça vient. Bon, et Hulot, et bon. Effectivement, le problème de l'optimisme, c'est qu'il est comptable. Non, et la racine de l'optimisme est commune à ce qui est optimal. Et au fond, qu'est-ce que ça consiste à dire? C'est assez navrant comme calcul. C'est se dire, bon, être optimiste, c'est au fond se dire que l'énergie qu'on va consacrer à une cause a suffisamment de chances de générer un résultat. Résultat escompté, et sur la base de ce calcul-là, on va se lancer, mais il faut quand même pas se lancer hein, si on n'est pas sûr de son fait. Alors que, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de surmonter la dichotomie. Si j'avais le talent de Nietzsche, comme il a écrit par-delà le bien et le mal, j'écrirais par-delà l'optimisme et le pessimisme. C'est-à-dire être capable de penser au-delà de la dialectique, indépendamment d'elle, et surtout sortir de cette espèce de logique des vases communicants, où on a dit, si vous n'êtes pas optimiste, vous êtes pessimiste, vous êtes donc pessimiste, donc taisez-vous parce que vous nous déprimez, puis c'est un peu ça la logique. Quoi. Dites-nous des choses heureuses, dites-nous où est-ce qu'on peut signer la pétition, quel est le formulaire qu'on peut remplir, quelle est la photo qu'on peut acheter, puis taisez-vous, parce qu'on veut rester gaga, et on est là dans l'espèce de gaieté sans lucidité dont je parlais tout à l'heure. C'est l'alliage qu'il faut essayer de trouver.
C'est une question qui est peut-être difficile pour toi d'y répondre, mais en même temps, ton livre est traversé par cette question. Est-ce que tu peux définir aujourd'hui, d'une manière assez simple, compréhensible, transmissible, ce qu'est l'écologie politique?
J'ai un peu de difficulté en
ou
fait
ce avec ce n'est pas.
Oui, j'ai un peu de difficulté avec ce terme d'écologie dans la mesure où moi-même je l'ai contesté, mais il est tellement usité que je ne peux pas m'en priver désormais. Dans le livre qui s'intitule L'économie de la nature, pour lequel tu as eu la générosité de me recevoir, j'expliquais qu'avant de parler d'écologie au 17e siècle, au 18e, on parlait d'économie de la nature. C'est l'économie, c'était l'écologie tout de suite. Donc pour moi, c'est qu'est-ce que c'est que l'économie politique, si on veut, au sens de l'écologie, parce que le terme économie au sens de l'écologie est plus ancien que celui qu'on utilise aujourd'hui pour penser le business. Hein, ben c'est quoi? C'est une pensée des agencements. C'est assez spinoziste comme approche. Si des gens veulent se lancer dans Spinoza, c'est le plus grand service qu'ils peuvent se rendre à eux-mêmes. C'est assez spinoziste. C'est penser les agencements en tant qu'ils sont bons, en tant qu'ils sont féconds, en tant qu'ils sont profonds, en tant qu'ils sont pertinent. Bon, c'est l'économie, dans ce sens philosophique, qui a toutes sortes de racines et de pendants dans les disciplines comme la biologie, l'histoire, la littérature, ainsi de suite. Hein, c'est une pensée des relations en tant qu'elles sont bonnes. Et font l'écologie politique, pour reprendre la question telle qu'elle, c'est une pensée des relations bonnes. Comment être sur un territoire en nouant des rapports qui sont bons avec les espèces, avec le climat, avec la terre, avec le vivant, avec les micro-organismes, avec le littoral, hein, et avec tout ce qui compose ce territoire-là, en considérant qu'on en fait partie. Mais là, il faut sortir du slogan « on n'exploite pas la nature, on en fait partie », il faut sortir du slogan en apprenant, et ce que font de plus en plus d'éthiciens et de philosophes, en apprenant comment se comporte le vivant. Et des gens en littérature aussi, puis en théâtre, puis au cinéma, dans le documentaire.
Oui, tu en parles beaucoup, ça, non?
Et qu'est-ce que c'est qu'un bassin versant? D'où vient l'eau qu'on boit? Quelles sont les espèces indigènes dans le domaine de la flore? Comprendre où on est. Parce que de plus en plus, on sera en interaction avec celui-là et non pas avec des babioles qui nous viennent d'Asie.
Il y a l'écologie, je parle de la France, il y a l'écologie politique avec les tentatives honorables des politiques en France qui essaient de construire un NFP pour lutter contre ce qui se passe. Et puis, il y a des initiatives d'écologie politique qui se créent avec les zadistes, avec des groupes qui se structurent, qui rachètent des villages, qui font des communautés, des choses comme ça. Et pour l'instant, il n'y a pas de lien entre les deux, quoi. Il y a comme une... Toi, tu es plutôt du côté de l'écologie politique, des initiatives, et comment tu vois l'autre écologie, celle qui essaie ? Parce que ces gens-là, ces écologistes qu'on voit à la télévision avec des vestes vertes ou autres, ils ont quand même du mérite, ils font une sacrée énergie pour aller discuter sur des plateaux télé avec des fous furieux. Les fous furieux sont ceux qui sont en face et qui n'entendent pas le discours. Et donc, en même temps, t'as l'impression, il y a une sorte de... Tu te prostitues en allant là-bas. Et puis, il faut une sacrée énergie parce que t'as plus de... Et tu es même critiqué par les zadistes ou par les types qui eux, se disent, nous, la politique, allez vous faire foutre. Nous, on crée nos jardins, on fait de la permaculture, on se révolte à notre manière, quoi. Il y a quelque chose de...
La question est excellente. La réponse que je me suis donnée se pose. J'essaie d'être polyglotte politiquement avec une langue maternelle. Bon, l'approche biorégionale, qu'on la lit chez Raymond Dasman, Peter Berg, Agnès Sinaï, ou encore Kirkpatrick Sale, c'est souvent une écriture qui est revenue de l'agir étatique. Les grands messes écologistes sur le climat, ainsi de suite, les grands sommets, les COP et tout ça, on en a soupé, on sait que c'est stérile, c'est de la com, et ne nous en parlez plus. Et donc, le primat est celui de l'action à une échelle effectivement régionale, quoi, les ZAD, ainsi de suite. Bon. Néanmoins, je crois qu'on peut être polyglotte. C'est-à-dire avoir une sorte de langue seconde qui consiste à dire, il y a encore un État, il y a encore des ministères, il y a encore des budgets, il y a encore une force agissante, une relative souveraineté de sa part, et on a intérêt aussi simplement à suivre ce qui s'y passe. Hein, et à faire pression si on peut, et puis mieux vaut que ça soit effectivement Yves Cochet qui soit ministre de l'écologie, ou de l'effondrement, mais plutôt que un type des HEC qui n'y connaît rien, quoi.
Bon,
même si on sait que la solution ne réside pas dans ces structures-là qui sont moribondes, qui sont soumises au lobbying, qui ont des fonctionnaires qui sont totalement aliénés, étant donné leur formation on sait qu'il n'y a pas beaucoup à attendre, mais on peut être polyglotte. C'est-à-dire, ma langue maternelle, ou ma langue principale, c'est celle de la biorégion, ou c'est ça où on nommera le projet qu'on a à sa façon, néanmoins, je continue de simplement lorgner du côté de ce qui se passe dans ces instances-là, parce que ce n'est pas insignifiant non plus.
Oui. Et je vais te citer encore, parce qu'il y a encore deux, trois passages dont je voudrais te faire réagir. C'est page 133 d'abord, et puis 133, tu poses la question du faire que, tu dis faire que l'égalité sociale prévale, faire que la communauté prenne part aux décisions politiques, faire que l'agir humain se conforme aux impératifs circonstanciels de la nature. L'énonciateur du faire que n'est en rien en position d'autorité. Il se place du côté de l'histoire plutôt que du discours. Dans l'expression faire que, le que cesse d'être un pronom interrogatif pour devenir une conjonction de subordination. Il ne désigne plus un objet pratique à déterminer, mais il appelle un effort d'imagination quant à des acteurs, des conjonctions, des modalités, tout un ensemble, etc.
Mais c'est une façon de ne pas être nostalgique du que faire de Lénine. Ouais. De pas être dans le... Parce qu'il y a toujours cette injonction, on se la fait servir à toutes les occasions, dès qu'on est un peu critique. Ben, qu'est-ce que vous proposez, vous, là? Ben, là, dites-le, là, crachez le morceau, ben, qu'on vous taille en charpie, là. Qu'est-ce que vous proposez? Oui. Et c'est complexe, parce que ce qu'on propose, c'est précisément la démocratie. Mais la démocratie, comme Jacques Rancière la pense, là, pas un régime comme ça qui s'attribue un terme, amélioratif. Mais, la démocratie au sens où, elle pense, elle structure, elle organise, elle souhaite, l'expression des intelligences. J'aime bien cette expression chez Rancière qui est un peu moins connue, mais qui est la question des compétences non spécifiques. Vraiment, les compétences. Et ce qui est intéressant dans le projet biorégional, c'est qu'il est, il s'intéresse à la science instituée comme on la connaît aujourd'hui. Il s'intéresse aussi à la sapience, au savoir populaire, qui peuvent être probants là où les actrices et acteurs sociaux se trouvent. Il s'intéresse par ailleurs aux arts, à la spiritualité, puis enfin à la politique, à l'organisation des communs, du réel, ainsi de suite, sur un mode créatif et adapté et lucide. Bon, et forcément, il y a pas de programme pour ça. Alors, mais il y a quand même des balises fortes. La biorégion, c'est pas n'importe quoi, mais c'est pas quelque chose de prescriptif non plus. Il y a une ouverture.
Alors, tu te caches pas toujours derrière la question, parce que tu dis faire que, mais tu réponds pas à que faire. Mais il y a un moment donné dans le livre, tu dis ce qu'il faut faire.
Je pêche.
Hein? Non, mais tu pêches. Oui, tu pêches, oui. Mais tu dis, il y a une chose à faire, il faut faire mal. Et tu dis, mal faire les choses, ne pas suivre les conseils officiels, mépriser le directeur ou la directrice de thèse qui choisit de s'asseoir à côté de soi pour nous apprendre à plafonner comme lui où elle est sous prétexte de nous montrer à accomplir des gestes conformes plutôt que de rester là, devant, à soutenir notre singulier effort. Livrer la guerre à la médiocratie qui réduit toute démarche aux cases des demandes de subventions. Faire de tous les mots en vogue les objets de notre méfiance critique. Ne jamais leur donner gratuitement accès au siège de notre conscience, mais aussi estimer grave le fait de la publication, de la parole publique, éviter de rappeler, etc., etc. C'est un code de bonne conduite que tu
de mal conduite. Oui, faire, c'est nécessairement, en l'occurrence, s'essayer. Mmh. C'est s'essayer à ce qui n'a jamais été fait. Comment formulait-il ça? J'avais un prof de philo que j'aimais bien, qui s'appelait Patrice Leroux, ici à Paris, quand j'ai fait mes études. Il dit, une politique de gauche ne sait pas où elle va. Hein, c'est comme ça qu'il résumait les choses. Si effectivement on ferait, si on tranche, si on cessait à quelque chose, nécessairement on ne sait pas tout à fait où on va. Mmh. Bon, mais il peut, et ça peut sembler effrayant de dire ça, mais ce serait un très mauvais slogan pour une campagne électorale, un parti de gauche qui dirait ça. Bon, mais néanmoins, il peut être moins effrayant de se dire on va là-bas parce que le cap et bon, éthiquement le bon, même si on ne sait pas tout à fait ce qu'on fait, que de continuer à faire ce qui nous mène dans le mur. Bon, et on en est là à s'essayer à des choses qu'on va nécessairement mal faire et qu'il faudra parfaire. Et ce qui est faire.
Ouais. Alors, il y a un moment où tu es convaincant hein, dans le livre, mais il y a un moment où tu es très convaincant, c'est vers la fin, quand tu t'interroges en citant Durkheim, et tu t'interroges sur pourquoi se suicide-t-on aujourd'hui. Et en fait, la réponse que tu donnes nous pousse à t'écouter. C'est-à-dire qu'on se suicide aujourd'hui parce qu'on, tu donnes plein de raisons. On peut en citer l'alcoolisme, le fait de se faire quitter par l'être aimé, enfin, etc. Et tu dis non, c'est pas ça. Mais tu t'appuies sur Durkheim et sur des études très précises pour dire on se suicide. La première raison, c'est, je sais pas comment tu définis-le.
C'est le sentiment d'appartenance à une communauté restreinte. Mmh. Ouais, c'est très intéressant de lire le suicide de Durkheim. On a oublié la fin, quoi. C'est assez surprenant parce qu'habituellement, c'est une sorte de suspense, hein. Il écrit, comme ça, en dépouillant des statistiques de l'époque. Il passe en revue avec tous les critères toutes les hypothèses, hein, selon lesquelles on pourrait expliquer que dans des régions, on se suicide davantage que dans d'autres, dans des coins du monde. Et il finit par dire, effectivement, on se suicide davantage lorsqu'on se sent comme une goutte dans l'océan. Lorsqu'on sent qu'on est simplement un numéro. Je le dis dans mes mots, là, mais lorsqu'on sent qu'on est, dans une sorte de grand troupeau, hein, pour lequel on ne compte pour rien. Bon, mais lorsqu'on se sent appartenir, lorsqu'il y a un lien social qui s'observe, à ce moment-là, on est vaillant. Et il ne fait que confirmer une hypothèse ou une intuition d'Aristote, hein, qui disait la même chose en son temps, dans une toute autre configuration politique, ou de Kirkpatrick Sale, qui est un penseur, lui, de la biorégion, pour le meilleur et pour le pire. Il y a des pages lumineuses chez lui et d'autres qui sont beaucoup plus problématiques.
Redis ce que tu penses.
Kirkpatrick Sale, qui est publié chez Wild Project, qui est la maison d'édition qui s'intéresse le plus à la
Il est en France traduit en français,
oui. Ah, oui. Oui,
on retrouvera les références. Mais tu en parles beaucoup, effectivement.
Oui, oui. Et bon, c'est un auteur avec qui j'ai maille à partir, mais qui a des pages sublimes sur la biorégion et qui, notamment, rappelle ceci, l'éthique existe sur une petite échelle. Si vous prenez, par exemple, je sais pas, l'Europe, l'Union européenne, l'Europe, et là, vous dégagez un code d'éthique pour tous les Européens qui vivent de manière indistincte sur le continent. Allez faire valoir cette moralité-là. Vous voyez bien que c'est c'est un exercice pour les beaux esprits. Ce sont des énoncés qui n'ont jamais autant de valeur que lorsqu'on connaît la rivière qui est concernée par ses actions, lorsqu'on connaît le prochain, lorsqu'on connaît son environnement au sens non environnementaliste, mais au sens simplement la localisation.
Mais tu cites Durkheim et la question du suicide à dessein, c'est-à-dire que tu nous dis ça parce que d'abord on se suicide beaucoup plus aujourd'hui qu'on ne se suicidait les années précédentes dans des proportions très importantes. D'ailleurs, un pays comme le Luxembourg, je ne sais pas si c'est toujours le cas, le plus gros taux de suicide par habitant peut-être sans doute du monde, alors que c'est un pays où le PIB est le plus élevé au monde, enfin, etc. Ils ont dû, d'ailleurs, il y a un pont qui traverse Luxembourg, ils ont dû mettre des barrières. C'est le pays où on prend le plus d'anxiolytiques, où on achète le plus d'alcool, même si les transfrontaliers en achètent beaucoup. Donc, on voit bien que la richesse ne protège pas contre le malheur, quoi. Mais tu dis ça parce que on se suicide aussi à l'échelle d'une nation. Et là, je voudrais pas pasticher Zemmour et son suicide français, qui lui dit que le pays suicide parce qu'il a un problème d'identité. Mmh. Toi, tu dis le suicide global, on va dire qu'un pays comme la France ou comme le Canada est en train de vivre est lié au capitalisme et à la manière dont cet état financier nous a complètement isolés et provoque ce malheur général.
Quoi. Mais quand on prend un pays de l'ampleur du Canada, qui est un pays continental, il est absurde, je veux dire, dans sa configuration même. Je veux dire, on comprend que sa seule motivation historique, c'est de faire main basse sur les richesses naturelles en spoliant les autochtones. Il n'y a pas d'autre projet. Et tout ce qu'on peut souhaiter... Quant à lui, c'est son démantèlement pour arriver à des espaces effectivement sensés d'ordre géopolitique et biorégionaux. Et bien entendu, j'aimerais avoir l'énergie et le courage de mettre à jour la pensée de Durkheim sur la question du suicide comme tel. Et si cela devait être fait, il est entendu que j'ajouterais des critères, notamment celui de l'angoisse ou celui, je dirais, du refoulement. C'est-à-dire qu'il y a une détresse psychologique attesté par des études de gens compétents, chez des gens qui mesurent un écart immense entre ce qu'elles savent et ce que ces personnes sont tenues de dire. Et le cas du Luxembourg peut être intéressant en cela, parce que le discours que le luxembourgeois moyen a sur son État, et on n'a qu'à entendre Jean-Claude Juncker dans La Très Grande Évasion, est... à des années-lumière de la réalité. Et quand on a apporté ce mensonge-là à longueur d'année, on craque, parce que l'écart, l'élastique cède, parce que l'écart est trop grand. Et on peut, je pense, effectivement, vivre son quotidien sous la forme d'une perte du sens, lorsqu'on est tenu de maintenir continuellement cet impossible grand écart.
Non, c'est vrai. Je voudrais te citer encore c'est vers la fin du livre, quand tu abordes la question des biorégions, dans un chapitre qui s'appelle « Nécessité fait loi », tu dis « La vie deviendra plus dure, mais plus significative. On se découvrira des talents qu'on ignorait et les mettra à des fins plus pertinentes que celles d'un influenceur sur Internet. On appellera biorégion l'ensemble qui naîtra de la nécessité dans un moment où il faudra réapprendre à s'organiser à une échelle sensible. Dans les villes appelées tendanciellement à se dépeupler, les bioquartiers pourront en être le pendant avec leur politique d'agriculture urbaine et de concentration de services. La biorégion n'est pas un projet, mais le lieu à partir duquel des projets émergent. La suite à donner à une situation, la contraction de la pensée politique à l'échelle régionale, qui sera, elle, impérative. C'est-à-dire que tu nous amènes là, quoi. Tu nous dis, bon, voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à vous proposer, mais c'est déjà énorme que ça. Enfin, c'est comme ça que tu le définis.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le projet biorégional est... et par définition, un acte de responsabilité qui, par lequel, au fond, on sort de ce que David Graeber appelle les bullshit jobs, si vous voulez. Oui. L'antipode de la biorégion, c'est le travail stérile à la chaîne qui part des temps modernes, enfin, du taylorisme aux bullshit jobs de Graeber, c'est-à-dire ces gens qui sont payés pour faire sortir les chiens, pour parler de cinéma à quelqu'un qui n'est pas allé voir les films, mais qui veut briller pendant son week-end. Bon, enfin, des choses dépourvues de sens. Bon, et évidemment que si vous êtes dans une situation où il y a eu des bris d'approvisionnement, où tout à coup, il y a de la... On est dans une ère de panique, où on ne sait plus sur quoi jeter son dévolu, et qu'il faut apprendre à travers tout ça à s'organiser. Ça peut être extrêmement pénible et voire dévastateur dans certains contextes, mais c'est aussi l'occasion de se découvrir une force, un sens, une responsabilité qui est elle aussi inouïe, et elle aussi de l'ordre de ce qu'on peut appeler une chance. C'est une chance que de pouvoir vivre une époque comme celle-là et qui rappelle des étapes antérieures de l'histoire où des gens disaient, des grands-parents, des arrière-grands-parents qu'on a pu entendre dire « nous, nous vivions avec peu, mais nous étions bien ». J'en profite pour dire que le projet biorégional n'est pas passéiste. Il ne s'agit surtout pas de revenir en arrière. Il s'agit par contre, oui, de restaurer des savoirs anciens, mais aussi des savoirs nouveaux. La permaculture nous permet de faire de l'agriculture biologique d'une manière tout autre que nos arrière-grands-parents, avec des méthodes et techniques. La fabrication de maisons à partir de paille compressée nous permet de faire une urbanité, enfin, ou en tous les cas, une architecture, hein, qui est tout autre que celle des anciens. Donc, c'est pas un retour aux amis. Hein, c'est pas un retour à. Hein, il s'agit d'une nouvelle page de l'histoire qui est stimulante. Mais par la force des choses, mais c'est pas le dessin. J'essaie de mettre de côté les termes privatifs. Parce qu'il nous mène nulle part. Anti-capitalisme, décroissant, anarchiste, insoumis. Ce sont des termes qui finissent, enfin, qui consistent à
s'autodétruire.
Ouais, je cherche une expression là, mais s'inscrire en faux contre une expression qu'on laisse d'autres définir. On se définit en tant qu'on n'est pas quelque chose. Et on est à coup sûr dans le ressentiment lorsqu'on se pense comme ça, en n'étant pas quelque chose, en n'étant pas ce que l'autre souhaite qu'on soit. Et donc, oui, c'est décroissant par la force des choses, parce que la décroissance nomme pas tellement un dessein politique, mais qu'une nécessité impérative. Bon, donc oui, c'est nécessairement décroissant, mais comment et à quelle fin et pourquoi? Et ce qui est intéressant avec le projet biorégional, c'est qu'il donne en fait une raison à la négativité. C'est-à-dire que si on s'oppose à des foreuses, si on s'oppose à dire une spoliation industrielle d'un territoire au profit bon, des puissants, on sait pourquoi. On ne fait pas que s'opposer en fonction de quelques éléments qu'on peut nommer in situ, mais on s'oppose quant à un dessin qui est celui de la biorégion, qui est plus grand hein, et qui est structurant et qui est roboratif.
Mais quand tu parles de biorégion, en France, c'est un terme qui n'est pas du tout usité, ni dans les médias, ni nulle part. Et chez toi, dans la presse canadienne, tout
non,
ça
non, non, non plus. Et étonnamment, c'est un terme qui, dont l'acte de naissance est au Canada, dans une région voisine à la mienne, qui a circulé par les États-Unis, l'Italie et la France, quand même. Dans le sud de la France, on en parle davantage. C'est ce que j'ai considéré un objet. Bon, moi, c'est mon parcours. Il y en a d'autres qui s'en sont peut-être donné d'autres ou qui en ont trouvé d'autres. Mais pour ma part, ça a fait office d'objet en tant qu'un objet est structurant, roboratif et stimulant. Mmh. Et pas accablant, ni...
Quand tu dis sud de la France, tu penses à Longomaille ou des choses comme ça?
À Marseille. où est située la maison d'édition Wild Project. Là,
ah oui, d'accord.
Il y a des débats là, autour de cette notion-là qui sont pertinents.
Et alors, pour finir...
J'insiste juste sur un mot. La biorégion, elle peut être agonistique. C'est-à-dire, on se bat pour elle. Hein, c'est pas un fantasme là, comme ça de doux rêveur.
Je termine avec ça. Je sais pas, je crois qu'il est philosophe ou Bookchin. C'est qui ce Bookchin?
Bookchin, c'est un penseur de municipalisme libertaire dans le Vermont, aux États-Unis.
Aux États-Unis, ouais.
Oui, qui est l'inspirateur de la maison d'édition Éco-Société chez nous. Et En France.
D'accord, parce que tu le cites à la fin de ton livre, et où on sait un peu Marx, le retour hein, sur la fin, c'est, tu dis, élaborer sa propre autonomie plutôt que d'apparaître au capital financier et politique comme un lointain marché, une région ressource, une colonie. Pour Bookchin, il ne peut y avoir d'écologie politique, serait-elle nécessairement biorégionale, que si un peu de marxisme la compose. La thèse, deux points, pour cesser de se percevoir comme les maîtres incontestés de la nature, les êtres humains doivent d'abord apprendre à cesser à se dominer entre eux. Et là, tu le cites, si les êtres humains sont devenus étrangers à la nature, c'est d'abord à cause de changements sociaux qui ont fait de beaucoup d'entre eux des étrangers dans leur propre société. Fermez les guillemets. N'en tenir point compte et tout en ignorer ne permettent pas de penser les bases sociales et culturelles sur lesquelles convaincre ses semblables du bien fondé d'un projet biorégional, ni de sa capacité à tenir également compte de réalités anthropologiques qui émaillent le territoire.
Je ne sais pas si Bookchin se serait dit marxiste, parce que dans un autre passage du livre, il critique Marx pour sa technolâtrie. Et sa créance envers
la technologie autant de Marx, c'était pas la même que celle qui
non bien
vit
sûr
aujourd'hui.
mais il y va d'un parti pris sur lequel lui revient, mais effectivement il y aurait tellement de nuances à faire. Néanmoins, là où il serait bon dans l'axe, hein, c'est de dire que si on veut penser l'égalité entre les espèces, il faudrait commencer à la penser entre les humains, que ça faciliterait les choses. Oui. Et que, pour lui écologiste, hein, le travail se faisait aussi là, sur un plan social. Et aussi, il était méfiant envers des discours écologistes de type transcendantaux, qui voyaient la nature comme un nouveau dieu, qui commande, qui donne des ordres, qui structure d'une manière verticale. Hein, et il cherchait, en fond, à rendre quand même toujours minimalement humaine l'action écologique, au sens où il s'agit pas de soumettre un fantasme de nature autonome qui régit le monde, mais qui consiste à penser avec elle sur un mode égalitaire ce que nous devons aussi apprendre entre nous.
Alors, tu termines ton livre sur une image très belle et que je trouve et qui rend optimiste. Tu me permets de dire ça? C'est tu cites Sébastien Saldago, l'immense photographe, qui rentrant chez lui au Brésil d'une région qui était complètement dénudée, s'est mis avec sa femme et son fils, je crois, qui en a fait un documentaire, à planter des arbres, et qui au bout de 10 ans, non seulement il a planté des arbres, mais il a recréé toute une population de faune, de flore, enfin, etc. Et c'est un bel exemple de cette reconquête qui rend la reconquête possible, quoi.
La nature est féconde et la nature rend humble. Et nous en avons besoin.
Alain, je te remercie beaucoup. C'était très agréable et intéressant. J'espère que tu vas revenir avant 4 ans. Là,
je risque d'être économe de mes vols.
Il faut venir en bateau.
Oui, effectivement, j'y penserai.
Tu fais un film avec Yannick sur ce livre-là, Yannick Kerguad, ben il faudra que tu reviennes et ça fera plaisir de te revoir. Ce que je voudrais dire enfin, c'est que on est en pleine campagne, nous, d'abonnement et on demande aux gens de nous aider parce que pour justement, on représente une biorégion
médiatique
à nous tout seuls, parce que dans on est un peu le village d'Astérix, on n'est pas les seuls médias indépendants à nous battre, mais d'ailleurs chez toi, dans ton pays, il y a des médias indépendants qui vous subissez le même sort que nous avec des chaînes de télé omniprésentes qui nous mettent de la merde dans la tête et on essaie de résister, nous, mais vous aussi, vous vivez ça?
Oui, sur un mode plus embryonnaire. Je dirais beaucoup de gens dans la francophonie au Québec, on n'a qu'à dire, regarde Blast, médias part et d'autre. Quoi.
Mais vous avez des médias indépendants qui se bagarrent aussi, qui essaient de résister, ou il n'y a pas d'économie pour ça chez vous?
C'est plus difficile, mais il y a des gens qui peuvent faire des podcasts, où il y en a beaucoup.
D'accord.
Tout à fait.
En tout cas, abonnez-vous à Blast, faites des dons si vous voulez qu'on continue à inviter Alain Deneau et à faire ces grands entretiens, à faire surtout ces enquêtes, quoi. Merci de vous connecter sur le site, on fait des papiers tous les jours. Et voilà, vive Blast, vive Alain Deneau et vive les biorégions. Merci beaucoup.
Merci.